La Tour de Garde, édition d'études, décembre 2020. Article d'étude numéro 49. Cet article sera étudié la semaine du 1er au 7 février 2021. La résurrection, une espérance certaine. Voici le verset thème de l'étude. J'ai cette espérance en Dieu qu'il va y avoir une résurrection. Acte 24, verset 15. Cantique 151. Jéhovah appellera. Aperçu ? Le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens parle principalement de la résurrection. Pourquoi cet enseignement est-il important pour nous ? Et pourquoi pouvons-nous être sûrs que Jésus a été ressuscité ? Cet article répondra à ces questions, ainsi qu'à d'autres questions importantes concernant la résurrection. Paragraphes 1 et 2, questions. Quelle espérance merveilleuse les serviteurs de Jéhovah ont-ils? Nous avons tous besoin de nourrir des espoirs. Certains espèrent être heureux en mariage, avoir des enfants en bonne santé ou guérir d'une maladie grave. Peut-être que c'est notre cas aussi. Mais comme nous sommes chrétiens, nous espérons plus que cela. Nous espérons vivre éternellement et revoir les proches que nous avons perdus. L'apôtre Paul a écrit: J'ai cette espérance en Dieu qu'il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. Acte 24, verset 15. Paul n'a pas été le premier à parler de l'espérance de la résurrection. Le patriarche Job en a parlé aussi. Il était convaincu que Dieu se souviendrait de lui et le ressusciterait. Paragraphe 3, question. Que peut nous apporter l'examen de 1 Corinthiens chapitre 15? La résurrection des morts est un enseignement de notre doctrine fondamentale, un des fondements de nos croyances. Hébreux 6, versets 1 et 2. En 1 Corinthiens chapitre 15, Paul examine en détail cet enseignement. Ces paroles ont dû encourager les chrétiens du 1er siècle, et elles peuvent nous encourager nous aussi. Même si nous croyons en la résurrection depuis longtemps, elles peuvent renforcer notre espérance. Paragraphe 4, question. Pourquoi pouvons-nous être sûrs qu'il y aura une résurrection? La résurrection de Jésus nous permet d'être sûrs que les proches que nous avons perdus seront ressuscités. Cet enseignement fait partie de la bonne nouvelle que Paul a annoncée aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Il leur a aussi expliqué que si un chrétien ne croyait pas en la résurrection, sa foi était inutile. La résurrection de Jésus est à la base de notre espérance chrétienne. Paragraphes 5 et 6, question. Quelle assurance 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4 nous donne-t-il? Paul a commencé son examen de l'enseignement de la résurrection en soulignant trois idées importantes. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré et il a été ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Nous lisons en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Parmi les premières choses que je vous ai transmises, il y a ce que j'ai reçu moi aussi. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il a été enterré, et il a été ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Quelle assurance la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus nous donnent-ils? Isaïe avait prophétisé que le Messie serait retranché du pays des vivants et qu'il recevrait une tombe près des méchants. Mais ce n'était pas tout. Comme Isaïe l'a précisé, il devait aussi porter les péchés de beaucoup. Et c'est ce qu'il a fait en fournissant la rançon. Isaïe 53, versets 8, 9 et 12. Ainsi, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus donnent un fondement solide à notre espérance de retrouver les proches que nous avons perdus et d'être libérés du péché et de la mort. Il y a eu de nombreux témoins. Paragraphes 7 et 8, question. Qu'est-ce qui permet aux chrétiens d'être sûrs que Jésus a été ressuscité? Comme nous l'avons vu, notre espérance en la résurrection est étroitement liée à la résurrection de Jésus. Nous devons donc être sûrs que Jéhovah a ramené Jésus à la vie. Qu'est-ce qui nous le prouve? Beaucoup ont pu témoigner que Jésus avait été ressuscité parce qu'ils l'ont vu après sa résurrection. Le premier témoin mentionné par Paul a été l'apôtre Pierre, aussi appelé Céphas. De plus, tout un groupe de disciples a confirmé que Pierre avait vu Jésus ressuscité. Les 12, c'est-à-dire les apôtres, ont également vu Jésus après sa résurrection. Puis le Christ est apparu à plus de 500 frères à la fois, peut-être à l'occasion de la joyeuse réunion en Galilée mentionnée en Matthieu 28, versets 16 à 20. Il est aussi apparu à Jacques, probablement son demi-frère, qui avant cela ne croyait pas qu'il était le Messie. Mais après avoir vu Jésus ressuscité, Jacques a eu foi en lui. Notons que lorsque Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, vers 55 de notre ère, beaucoup de ceux qui avaient vu Jésus ressuscité étaient vivants. Donc si quelqu'un doutait de sa résurrection, il pouvait consulter des témoins dignes de confiance. Paragraphe 9, question. D'après Actes 9, versets 3 à 5, pourquoi Paul pouvait-il lui aussi témoigner que Jésus avait été ressuscité? Plus tard, Jésus est apparu à Paul lui-même. Alors qu'il se rendait à Damas, Paul, ou Saul, a entendu la voix de Jésus ressuscité et a eu une vision de lui dans sa gloire céleste. Nous lisons en Actes 9, versets 3 à 5. En cours de route, alors qu'il approchait de Damas, une lumière venant du ciel brilla soudain autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce qu'il a vécu ce jour-là est une preuve supplémentaire que la résurrection de Jésus n'est pas un mythe. Paragraphe 10, question. Qu'est-ce que la foi de Paul dans la résurrection de Jésus l'a poussé à faire ? À une époque, Paul avait persécuté les chrétiens. Son témoignage pouvait donc avoir beaucoup de poids pour certains. Une fois convaincu que Jésus avait été ressuscité, il a fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre les autres de cette vérité. Pour la répandre, il a enduré de nombreuses épreuves. Il a été battu et emprisonné, et il a fait naufrage plusieurs fois. Il était tellement sûr que Jésus avait été ressuscité qu'il était prêt à mourir pour défendre cette croyance. Ne trouves-tu pas que le témoignage de ces chrétiens du 1er siècle est une preuve convaincante que Jésus a été ressuscité? Et leur témoignage ne renforce-t-il pas ta foi en la résurrection? Paul corrige des idées fausses. Paragraphe 11, question. Qu'est-ce qui a pu amener certains chrétiens de Corinthe à avoir des idées fausses sur la résurrection? Certains chrétiens de Corinthe avaient des idées fausses sur la résurrection. Ils allaient jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 12. Pourquoi? Des philosophes d'Athènes, une autre ville grecque, se moquaient de l'idée que Jésus avait été ressuscité, et cela a peut-être influencé certains membres de l'assemblée de Corinthe. Pour d'autres chrétiens de cette ville, la résurrection était à prendre au sens symbolique. Ils pensaient qu'une personne était considérée comme morte parce qu'elle commettait des péchés, et qu'elle revenait à la vie quand elle devenait chrétienne et que ses péchés étaient pardonnés. Quelle qu'en soit la raison, si quelqu'un ne croyait pas en la résurrection, il ne croyait pas non plus en la résurrection de Jésus, et sa foi était alors inutile. En effet, si Dieu n'avait pas ressuscité Jésus, cela voulait dire que la rançon n'avait pas été payée et que les péchés des humains n'étaient pas pardonnés. Ainsi, ceux qui rejetaient l'enseignement de la résurrection n'avaient en réalité pas d'espérance. Paragraphe 12, question. En accord avec 1 Pierre 3, versets 18 et 22, en quoi la résurrection de Jésus était-elle différente de celle qui avait eu lieu précédemment? Paul, lui, savait très bien que Jésus avait été relevé d'entre les morts. La résurrection de Jésus était supérieure à celle de ceux qui avaient été ressuscités précédemment, mais qui avaient fini par mourir de nouveau. Paul a dit que Jésus était les prémices de ceux qui se sont endormis dans la mort. En effet, il a été la première personne à être ressuscitée en tant qu'esprit et le premier humain à monter au ciel. La note ajoute : les prémices sont les premiers fruits d'une récolte ou le début de quelque chose. Fin de la note. Nous lisons en 1 Pierre 3, verset 18 : Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, un juste pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. il a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. Verset 22. Celui-ci est à la droite de Dieu, car il est allé au ciel, et anges et autorité et puissance lui ont été soumis. Tous seront ramenés à la vie. Paragraphe 13, question. Quel contraste Paul a-t-il établi entre Adam et Jésus? Comment, grâce à la mort d'un seul homme, des millions de gens peuvent-ils être ramenés à la vie? Paul a répondu clairement à cette question. Il a établi un contraste entre les tristes conséquences du péché d'Adam et les bienfaits qu'apporte le sacrifice de Christ. En parlant d'Adam, il a dit « La mort est venue par un homme ». Le péché d'Adam a eu des conséquences catastrophiques pour lui et pour ses descendants. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous souffrons parce qu'il a désobéi. À l'inverse, parce que Jéhovah a ressuscité son fils, nous pourrons connaître un avenir merveilleux. Paul a expliqué « La résurrection des morts vient aussi par un homme, Jésus. En effet, de même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. » 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Paragraphe 14, question. Adam sera-t-il ressuscité? Explique. En Adam, tous meurent. Que voulait dire Paul par là? Il parlait des descendants d'Adam qui héritent de lui le péché et l'imperfection, et qui par conséquent meurent. Adam, lui, ne fait pas partie de ceux qui seront ramenés à la vie. Il ne peut pas bénéficier de la rançon, car il était parfait, et il a désobéi volontairement à Dieu. Il lui arrivera la même chose qu'à ceux que le Fils de l'homme jugera comme étant des chèvres. Il subira la mort éternelle. Matthieu 25, versets 31 à 33 et 46. Paragraphe 15, question. De qui Paul parlait-il notamment quand il a dit que tous seraient ramenés à la vie? Notons que Paul a dit que dans le Christ, tous seraient ramenés à la vie. 1 Corinthiens 15, verset 22. Paul s'adressait aux chrétiens oints de Corinthe, qui seraient ressuscités pour vivre au ciel, et qui étaient sanctifiés en union avec Christ Jésus et appelés pour être saints. Les chrétiens oints font donc partie de ceux qui seront ramenés à la vie. Paul a également mentionné ceux qui s'étaient endormis dans la mort en union avec Christ. 1 Corinthiens 1, verset 2 et 15, verset 18. Dans une autre de ses lettres, il a précisé que ceux qui étaient unis à Jésus dans la ressemblance de sa mort seraient unis à lui dans la ressemblance de sa résurrection. Romains 6, versets 3 à 5. Jésus a été ressuscité en tant qu'esprit et est monté au ciel. C'est donc ce qui arrivera aussi à tous ceux qui sont en union avec Christ, c'est-à-dire à tous les chrétiens oints. Paragraphe 16, question. Qu'est-ce que Paul laissait entendre en disant que Jésus était les prémices? Paul a écrit que Christ a bien été relevé d'entre les morts et qu'il était les prémices de ceux qui se sont endormis dans la mort. C'est vrai, certains humains comme Lazare ont été ressuscités sur la terre. Mais Jésus a été le premier à être ressuscité en tant qu'esprit et à recevoir la vie éternelle. Il peut être comparé aux prémices, c'est-à-dire aux premiers fruits de la terre que les Israélites offraient à Dieu. De plus, en disant que Jésus était les prémices, Paul laissait entendre que d'autres seraient ensuite ressuscités pour vivre au ciel. Ce serait le cas des apôtres et de tous ceux qui étaient en union avec Christ. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 15 et 16. Jésus a été le premier à être ressuscité au ciel. Parmi les disciples qui l'y rejoindraient, il y a Thomas, Jacques, Lydie, Jean, Marie et Paul. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Jésus a été le premier à être ressuscité au ciel. Beaucoup le seraient par la suite. Paragraphe 17, question. Quand ceux qui sont en union avec Christ reçoivent-ils leur récompense céleste? À l'époque où Paul a écrit aux Corinthiens, la résurrection de ceux qui étaient en union avec Christ n'avait pas encore commencé. Paul a indiqué qu'elle aurait lieu plus tard. Il a dit « Chacun selon cet ordre, comme prémisse Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ durant sa présence. » 1 Corinthiens 15, verset 23. Nous vivons aujourd'hui l'époque de la présence de Christ. Les apôtres et les autres chrétiens oints qui sont morts avant le début de sa présence n'ont donc pas reçu leur récompense céleste tout de suite. Ils ont dû attendre avant d'être unis à lui dans la ressemblance de sa résurrection. Notre espérance est certaine. Paragraphe 18, question A. Qu'est-ce qui indique qu'après la résurrection céleste aura lieu une autre résurrection? Question B. Comme le montre 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26, que se passera-t-il une fois que tous les oints seront ressuscités au ciel? La Bible dit que ceux qui vont vivre au ciel ont part à la première résurrection. Révélation 20, verset 6. Cette expression indique qu'une autre résurrection aura lieu. Cela est en accord avec ce que Job a dit au sujet de son espérance. Quant à ceux qui appartiennent au Christ durant sa présence, ils seront au ciel avec lui quand il réduira à rien tout gouvernement et tout pouvoir et puissance. Même le dernier ennemi, la mort, sera réduit à rien. Bien sûr, la mort ne frappera plus ceux qui sont ressuscités au ciel. Mais que dire de tous les chrétiens qui n'ont pas l'espérance de vivre au ciel avec Jésus? Nous lisons en 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26. À la fin, il remettra le royaume à son Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout gouvernement et tout pouvoir et puissance. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tout ennemi sous ses pieds. Et le dernier ennemi, la mort, sera réduit à rien. Paragraphe 19, question. Qu'est-ce qui attend ceux qui ont l'espérance de vivre sur la terre? Qu'est-ce qui attend ceux qui ont l'espérance de vivre sur la terre? Ces paroles de Paul leur donnent un magnifique espoir. J'ai cette espérance qu'il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. Acte 24, verset 15. De toute évidence, aucun injuste ne peut aller au ciel. Ces paroles montrent donc qu'il y aura une résurrection sur la terre. Paragraphe 20, question. Cet article a-t-il renforcé ton espérance en la résurrection? Explique. C'est certain, il va y avoir une résurrection. Ceux qui seront ressuscités sur la terre auront la possibilité d'y vivre pour toujours. Tu as de bonnes raisons d'avoir confiance dans cette promesse. Si tu as perdu des proches, elle peut te réconforter. Ils pourront être ressuscités pendant les 1000 ans sous le règne de Christ et des 144 000. Révélation 20, verset 6. Et tu peux être sûr que toi aussi tu seras ressuscité s'il t'arrivait de mourir avant le début de ce règne. L'espérance ne déçoit pas. Romains 5, verset 5. Elle peut te fortifier et te rendre plus joyeux au service de Jéhovah. Mais comme le montrera l'article suivant, nous pouvons apprendre d'autres choses encore du chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 20. Un frère a perdu sa femme qu'il aimait tant et avec qui il avait servi Jéhovah pendant de nombreuses années. Il est certain qu'elle sera ressuscitée et il continue de servir Jéhovah fidèlement. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Si nous croyons fermement en la résurrection, nous regarderons vers l'avenir avec confiance. Que répondrais-tu? Qu'est-ce qui prouve que Jésus a été ressuscité? Pourquoi le fait que Jésus a été ressuscité est-il très important pour nous? Comment 1 Corinthiens chapitre 15 renforce-t-il notre foi en la résurrection? Cantique 147. La promesse de la vie éternelle. Fin de l'article.